Bonjour mesdames et messieurs, le tabarnak numéro 70, comme prévu, eh bien, c'est un interview avec mon oncle Serge. Mon oncle Serge, c'est tout simplement Serge Robert, un chanteur qui a débuté sur CIBL, notre radio partenaire, que vous pouvez retrouver sur internet bien sûr, et qui a fait des chansons d'actualité pendant quelques années, qui ensuite a sorti trois albums axés là-dessus, sur les chansons d'actualité, son ressenti par rapport à cela. Et ensuite, ben voilà, l'année dernière, il a sorti un album tout seul qui s'appelle 13 Toon Trash. Et bien, c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, tout en essayant de comprendre un peu qu'est-ce qu'il a voulu dire dans ses chansons, parce que c'est vraiment du pur québécois. On comprend pas toujours, et on va s'amuser avec cela. Hein. Et bien, on est parti, on part à Montréal tout de suite.
Ses grandes dents, il fait peur aux enfants, et les fifs sont heureux de voir une si grosse queue. Mais hélas, Godzilla a quitté le Japon et nage en direction des eaux du Canada. Le méchant animal remonte le Saint-Laurent, à la nage il se rend jusqu'au port de Montréal. Le monstre surgit du fleuve, ses pattes écrapoutissent les gens et les bâtisses d'Hochelaga, Maisonneuve. Fini l'est de Montréal et les fonctionnaires pensent, youpi, moins de dépenses pour le bien-être social. Mais déjà Godzilla gagne le stade au grand mob. Il y pose son gros cul, les expos font chier dessus. Godzilla lâche son temps sur la tête des expos et l'enlargue. Ils auront une raison enfin de se plaindre qu'ils sont dans marde. Au centre Molson, le gros dinosaure assassin élimine les Canadiens bien plus vite que Buffalo. L'indomptable lézard détruit la place des ors ainsi que sa fontaine. C'est pourquoi l'OSM puis le monstre ravage le musée de Roseau et on rit davantage qu'à ses expositions. L'implacable saurien remonte la rue Saint-Laurent et écrase successivement portugais, juif et italien. Parizeau applaudit la bête préhistorique qui a enfin réduit le poids du vote ethnique. Pendant ce temps, le monstre traverse à l'aval, mais soudain, il tremble car sur son chemin, Jean-Marc Parent s'adresse. Godzilla, Godzilla, aurais-tu rencontré plus grand que toi? Le lézard contre le gros lard, ça promet d'être tout un combat. Son adversaire, mais l'obèse fait flasher ses lumières. Terrifié devant tant de conneries, Godzilla se sauve dans son pays. Fier d'avoir eu raison du dinosaure, de rester le plus fort parmi les connards. Parents rassemblent ses fans pour un show de boucan, pendant que le Mercedes-Benz joue du corporate rock.
Bonjour, bienvenue à ce tabarnak numéro 70. Alors les enfants, vous allez retrouver vos animateurs sur Énergie, puisque maintenant j'accueille en exclusivité mondiale mon oncle Serge. Bonjour.
Bonjour, pour une de mes rares entrevues outre-mer.
Bon, donc Serge, donc qu'on avait accueilli deux fois l'année dernière quand même.
Ben oui. Et... Alors j'en ai 203.
Voilà, et là t'es devenu une star.
Ben, pas vraiment, mais quand même, il y a certaines choses qui ont débloqué suite à l'apparition de mon quatrième album l'année dernière. J'ai sorti un album qui s'appelle 13 Toon Trash. Toon, j'imagine que c'est pas une expression que vous employez en France. Ça veut dire 13 chansons trash. Trash, je sais pas si vous employez ça non plus. Mais enfin. Donc, j'ai sorti un album l'année dernière au mois de juin. Et curieusement, même si c'était pas un album qui correspondait aux standards radio là, des radios commerciales à Montréal, de façon un peu, je dirais, inattendue. Il y a une nouvelle station à Montréal qui a ouvert ses portes et qui a fait de la place, je dirais, de la musique un peu plus alternative et qui a intégré quelques-unes de mes chansons à sa programmation. Et ça, ça fait une énorme différence sur, je dirais, mon niveau d'activité générale. Il y a deux chansons de moi qui ont joué sur le palmarès de cette station-là. Ça a généré beaucoup d'activité pour moi.
C'est passé. Alors, c'est passé à IBL?
Non, ça, c'est IBL, c'est une radio communautaire. Et la nouvelle station, ça s'appelle Cool FM. En fait, c'est une station filiale d'une des grosses stations qui existent à Montréal, qui s'appelle le C'est quoi. En fait, Cool FM, ça reste une radio très, très commerciale. Hein. C'est une radio, bon, évidemment, comme toutes les radios commerciales, l'objectif principal de cette radio-là, c'est de générer des profits, donc de vendre de l'annonce, de vendre des publicités à des annonceurs, etc. Donc, je dirais, le format de la radio demeure très, très commercial. Ce sont toujours les mêmes chansons qui jouent, les mêmes artistes. Il y a toujours les présentations des chansons sont très... les animateurs ont toujours l'air très énervés, très hilares derrière le micro. En tout cas, moi, ça me tape sur les nerfs pas mal. Mais quand même, c'est une station qui a fait de la place à des artistes qui étaient diffusés nulle part ailleurs. Et pour ça, ben je pense que ça représente quand même un certain progrès. Puis surtout pour moi, qui est un des artistes qui n'était pas du tout diffusé dans les radios commerciales, malgré que je l'étais dans les radios communautaires. Mais dans les radios commerciales, c'était le désert. Alors, je suis très heureux que d'avoir un petit peu plus de diffusion, quoi.
Eh ben, tu me fais une bonne transition, puisque on va diffuser pas mal de tes chansons, là, justement, de ton album 13 Toon Trash. Et il y en a une, là, qui s'appelle Le Gala de la Disque.
Oui.
Alors, tu parles de quoi dans cette chanson, là? Ça parle un peu du business de la musique, de la chanson par chez vous, non?
C'est ça. La Disque, en fait, c'est l'association pour, c'est l'association qui regroupe les producteurs de disques et de spectacles au Québec. Et le Gala de la Disque, c'est l'équivalent, je crois, des prix Victoire chez vous. C'est les prix, en fait, qui sont donnés aux chanteurs québécois à chaque année par l'industrie du disque du Québec. Et bon, moi, j'ai déjà participé au Gala de la Disque à deux reprises. Je faisais partie d'un groupe qui s'appelait les Colocs avant, qui était très, très populaire. Et puis, on avait gagné des prix là-dedans. Et puis, ça m'avait un petit peu tombé sur les nerfs, ce gala-là, avec toute cette... Tous ces galas, c'est un peu une réplique des gros galas hollywoodiens, les Oscars et puis les autres trucs du genre. Et puis, on essaie de faire la même chose ici au Québec. Ça demeure une célébration de toute cette industrie-là où quand je jouais avec les Colocs, les Colocs étaient un des groupes les plus populaires au Québec. Et pourtant, je faisais presque pas de sous avec ça. Je gagnais très péniblement ma vie en étant musicien dans ce groupe-là. Et tous les gens des compagnies de disques, des distributeurs, tous les gens qui avaient au-dessus de nous, eux, ils gagnaient très, très bien leur vie. C'était des gens qui faisaient de l'argent, il y avait des voitures, il y avait tout ça. Et puis, à un moment donné, je me disais, ben mais c'est nous la matière première à la base, puis tout ça, puis c'est nous, on récolte jamais les fruits de ça. Et pour moi, le gala de la disque, ça représentait vraiment cette espèce c'est un gala qui est fait pour l'industrie, pour les gens justement qui ramassent les sous et qui font en sorte que nous, on n'en a pas, les musiciens, à la base. Alors, ça m'écœure, ces gars. S'ils mettaient la moitié de l'argent qu'ils mettent dans l'organisation du gala de la disque pour la mettre, pour la distribuer entre les musiciens, les artistes, je pense ça nous ferait un bon chèque à chaque personne. Alors, ben voilà, écoute, je vais me taire un peu, là, je suis vraiment verbomoteur cet après-midi. Et on écoute ça?
Eh bien, on l'écoute. Est-ce que c'est celle-là qui est aussi sur ton site en MP3?
Non, elle n'est pas MP3, celle-là.
C'est le Caniche qui est MP3, qu'on écoutera tout à l'heure, je crois, c'est ça?
D'accord.
Eh bien, on écoute le gala de la disque.
Une chanteuse plate rêvait de gagner des Félix, est arrivée en limousine au gala de la disque. Elle s'est donc appliquée à devenir insipide. Ce fut pour elle naturel et rapide. Son disque et son show d'ol comme ça se peut pas lui valurent une invitation au gala. Quand le taouin a sorti son nom de l'enveloppe, elle mouillait ses petites culottes. Quelle salope! Non, je n'irai pas au gala de la disque. Je me les glisse juste en bas du coccyx. Faux crise de trophée de tweet. C'était le boss d'une grosse compagnie de disques qui votait pour les prix de la disque. Il n'a pas écouté un seul des micro-sions, ni vu un seul des shows en nomination. Ainsi font les gens de l'industrie. Ils donnent leur appui à leurs amis. Quand c'est un de leurs chums qui est gagnant, ils sont fiers d'être sa liste des remerciements. Non, je n'irai pas au gala de la disque. Quand ils ouvrent l'enveloppe de la catégorie pop, jamais ma poche ne plisse. Je suis déjà allé jadis au gala de la disque. J'ai bu du vin, j'ai checké les gros seins, j'ai mangé des sandwichs. J'ai croisé les gens les plus insignifiants et les chanteuses à grosses boules. Je me demandais en sacrement ce que je crissais dans cette foule. Après 3 heures de pur ennui, ben sous, j'ai regagné mon taudis. J'ai dompé mon trophée dans le garage, drette dans le bac à recyclage. Non, je n'irai pas au planète. Pourquoi courir le risque d'user ses ménisques rien pour aller chercher un Félix? Non, je paierai pas les 5 piastres, c'est trop coûteux d'avoir sa place. On ne me verra pas la face à ce gars-là. Mieux vaut se payer une danse à 10 qu'aller au gala de la 10.
Mon oncle?
Oui.
Tu sais quoi, une danse à 10?
Ah, une danse à 10, écoute, au Québec, on a des bars de danseuses nues qui sont très, très, très répandus dans chaque petit village à l'extérieur de Montréal. Un peu à la sortie du village, habituellement, on trouve un bar de danseuses nues et c'est très en vogue au Québec. Les danses à 10, ce sont des danses contact. Ça veut dire que le client qui paye pour la danse, avant, c'était pas vraiment permis, là, je dirais, de toucher à la danseuse. Et maintenant, ça a été porté en justice. Les juges ont rendu une décision qui permettait aux clients de toucher à la danseuse quand c'était convenu entre la danseuse et le client. Alors, c'est ça, une danse à 10. Le client s'enferme dans un petit cubicule avec la danseuse et puis il lui donne 10$ et la danseuse se met à poil et le client a le droit de lui toucher. Ça se demandait un peu, c'est quoi la limite avec la prostitution? Ça commence à être de plus en plus flou, là, ça commence à être non pas de plus en plus flou, mais de plus en plus pointu, comme est-ce que toucher des seins, c'est de la prostitution ou pas? Après ça, c'est où ça commence vraiment? Ouais. Ce sont des questions qui ont été un peu débattues, là, à l'époque où le jugement a été rendu au Québec, mais là, on dirait que c'est accepté maintenant. Et puis remarque, je tiens à préciser que je ne suis pas un client de danse à 10.
Bon, tu me rassures un petit peu, je pensais que c'était...
Mais je parle toujours de danseuses nues dans mes chansons quand même.
Oui, on va en écouter aussi des chansons qui sont trash, notamment sur les femmes. Mais là, puisqu'on va essayer d'en passer un maximum, le Caniche. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est à propos de Notre-Dame de Paris, c'est ça? Tu t'es payé Luc Plamondon dans cette chanson?
Ben écoute, Luc Plamondon ici, c'est une vedette qui est très, très, très établie, qu'on voit partout. C'est une espèce de modèle de réussite dans le showbiz québécois qu'on nous sert continuellement. Et c'est quelqu'un aussi, bon, j'imagine que vous le voyez aussi à la télévision de temps en temps en France, c'est quelqu'un qui est très imbu de lui-même, qui est très et qui refuse la critique. Quand quelqu'un se met à lui dire que ses paroles de chansons sont pas bonnes, par exemple, c'est quelqu'un qui le prend pas. Et il y a un journaliste d'un quotidien à Montréal qui s'appelle Le Devoir. Le journaliste en question avait écrit du mal sur les paroles de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Et quand Luc Plamondon avait lu ça, il s'était rendu dans une station de radio à Montréal et avait dit que l'auteur de cette critique-là devrait être mis en prison, il devrait être poursuivi en justice. On ne devrait pas laisser des critiques comme ça tenir de tels propos au sujet de son chef-d'œuvre. Notre-Dame de Paris, tatatitatata. Alors, ça m'a inspiré cette chanson qui s'appelle Le Caniche.
Eh bien, en plus, je crois qu'on peut la télécharger. Tu l'offres aux auditeurs et sur ton site, hein, c'est ça?
Elle n'est pas en MP3, par contre, mais elle est en Reel Audio et les gens peuvent suivre les paroles aussi sur le site Internet, dont l'adresse est mononc.qc.ca.
Après Jésus-Christ, tous les médias sont cons qui parlent Notre-Dame de Paris. Tous, non, un irréductible critique très estorat de Marie, dit tyrambique. Il plonge son stylo dans le venin le plus noir et écrit dans les pages du devoir. Au fond, le seul talent de Luc Plamondon, c'est de s'entourer de gens qui eux en ont. Le pot de l'ancien vent le matin, après avoir fait guili-guili à son serein, tombe sur la critique qui pèle les pédales et envisage de poursuivre le journal. Wow, les nerfs, le caniche rentre dans ta niche, puis fais-toi une sandwich moutarde reliche. Un poodle qui monte les dents, ça fait même pas peur aux petits enfants. Des milliers, sinon des millions de marrons achètent tes cassettes et tes microsions. Tu tiens la fiche au sein de lui pendant des mois, tu gagnes toujours toutes dans un style galop. Faudrait en plus que ceux qui n'aiment pas tes paroles soient privés du droit de dire qu'elles te trouvent dole. Faudrait clouer au pilori ceux qui disent du mal de tes textes pourris. Encore la pièce dans les cathédrales et des tortures médiévales expressément à la demande du poodle. Dans le code criminel, la peine de mort pour les détracteurs de l'auteur de Cœur de Rocker. De mort, nos dimanches à l'aurore, la charrette ramasse les condamnés à mort. On les promène dans les rues pour que le peuple regarde une dernière fois leur face de manger de marbre. Tout le monde est content comme si juste un sort frappe enfin les ennemis de l'or. Des esprits imperméables au génie qui nous a chié Notre-Dame de Paris. Le cortège arrive enfin sur la place d'armes. Plusieurs critiques versent des larmes. Tant mieux, ils auront une idée du mal qu'ils font aux paroles lire chaque jour dans le journal. La foule impatiente est en liesse et le caniche est là, il n'est pas en laisse. C'est avec une joie non dissimulée qu'il regarde monter sur le bûcher Laurent Saulnier et son look rockabilly. Alain Brunel, la grosse presse à démarrer. Sylvain Cormier, Patrick Gauthier. Il y a tant de têteux dans ce métier, mais ils sont à peine finis de nous faire chier. S'envole dans le ciel montréalais et notre ville devient soudain un paradis. Plus de pauvreté, plus de squeegee, plus de taxes, plus de drôle, seulement du sexe, de la drogue et du rock and roll.
Donc, elle est trash, celle-là, hein?
Elle fait du bien.
C'est quoi des squeegees?
Un squeegee, c'est... un squeegee, au départ, c'est l'espèce de... en français. Il y a une expression qui est française. C'est l'espèce de petit balai là, dont on sert pour nettoyer le pare-brise des voitures. Et il y a des gens à Montréal qui sont aux intersections importantes, souvent des punks qui sont là et qui sont avec cette espèce de petit balai là, pour nettoyer les fenêtres. Et bon, ils se tiennent au coin des rues et puis bon, ils nettoient les vitres des autos qui sont immobilisées au feu rouge. Et puis après ça, ils demandent l'argent en échange aux automobilistes. D'accord. Alors, ben voilà, c'est ça qui est un squeegee. Et j'en parle dans la chanson Marijuana, d'ailleurs.
Qu'on va écouter. D'ailleurs, raconte-nous un petit peu, c'est une histoire vraie, là. Tu es retourné dans ta tradition de chansons d'actualité?
C'est ça. Marijuana, en fait, c'est une chanson que j'avais écrite là au moment où il y avait... Ben, au Québec, la question de la légalisation de la marijuana, tout ça, c'est quand même une question qui revient continuellement dans l'actualité depuis 3, 4, 5 ans. Et j'avais écrit cette chanson-là, Marijuana, un peu dans la foulée, je dirais, de ces controverses-là. Et dans la chanson, enfin, la chanson Marijuana, c'était un peu pour, comment dire, parler de, je dirais, de l'hypocrisie de la société, je dirais, à l'égard des gens qui consomment du pot et qui... Parce que dans ma chanson, je montre des policiers qui fument de la mari, après ça, le juge fume de la mari, et ce sont tous des gens qui sont engagés pour réprimer le punk, le squeegee, qui s'est fait prendre avec 0,9, enfin, je sais pas si je... un demi-gramme de pot que je dis dans la chanson. Alors, donc, c'est tout le monde, tous les gens dans la chaîne qui punissent la personne qui avait de la drogue en prennent eux-mêmes. Alors, c'était pour... et je pense que, bon, c'est un peu une caricature, mais je pense que ça reflète quand même assez bien la réalité, parce que je pense que la mari, c'est quelque chose qui est entré pas mal dans les mœurs, et je pense que c'est assez hypocrite de la part de la justice de réprimer d'en réprimer la possession, quoi.
On l'écoute.
C'était dimanche après-midi au Square Berry. La police procède à l'arrestation d'un squeegee. Il fouille dans ses poches, il lui passe les menottes. Puis qu'est-ce qu'il trouve? Un demi-gramme de pot. La police confisque la matière dangereuse. Puis après le chiffre, il s'en va aux danseuses. Dans le stationnement, avant d'entrer, il se roule un gros joint avec le pot confisqué en chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Chaque fois que les bœufs avaient envie de stock gratis, le squeegee se faisait arrêter par la police. Chaque semaine, il se faisait pincer avec du cannabis. Le juge lui a donc donné la sentence la plus triste. Le laveur de métier ramassé en prison. Le juge est rentré fumer un joint à la maison. Et le lendemain, son brave gardien de nos valeurs partait en Thaïlande se taper des petits mineurs. En chantant marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Le squeegee en dedans essayait de passer le temps. Il a vite été incité à descendre d'un cran. C'est quelque chose de bien plus fort que la marijuana. Les gardiens lui vendaient pour arrondir leur fin de mois. Notre loser est mort d'overdose. Et pendant que le laveur de windshield repose, Ottawa envisage de rendre le pot légal. Oui, mais seulement à des fins médicales. Comprenons l'hésitation des morons d'Ottawa. Ils veulent pas faire de peine à leur job de la mafia. Et comme c'est là, le pot génère des milliers d'emplois. J'ai gardé de prison les juges et les avocats. Hey! Marijuana, marijuana, marijuana. Non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Marijuana, 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 non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana. Oh yeah! Marijuana, 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 non à la légalisation de la marijuana. Marijuana, 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 marijuana.
Elle est trash, hein?
Oui, une autre tonne trash.
Il y en a 13, il y en a 14 en fait, parce qu'il y en a une qui était cachée à la fin.
Oui. Une version française de Iron Maiden d'ailleurs.
Ah bon?
Oui, oui. C'est la chanson 666, The Number of the Beast, dont j'ai fait une adaptation ragtime.
Ben, on va l'écouter. Allez, explique un peu alors, c'est quoi ce truc?
Comment?
Et c'est quoi ce truc de Iron Maiden?
Iron Maiden, c'est il y a une chanson qui s'appelle 666, The Number of the Beast, qui est une espèce de chanson satanique. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça raconte. Là, c'est quelqu'un qui se sent possédé par le démon ou je sais pas quoi. Puis c'est vraiment une tune heavy metal. Là, et puis j'en ai fait. En fait, la chanson raconte l'entartement de Stéphane Dion. Stéphane Dion est un ministre du gouvernement fédéral au Canada et un jour, il est allé servir du gâteau dans un organisme de charité et à cette occasion-là, il y a quelqu'un qui lui a jeté une tarte à la crème en plein visage et j'ai écrit cette chanson-là en personnifiant moi-même le ministre Stéphane Dion qui reçoit sa tarte à la crème en plein visage. Les gens qui ont fait ça voulaient dénoncer le fait que le gouvernement de Stéphane Dion n'adopte pas de mesures pour les pauvres. Les seules choses qu'il fait pour les pauvres, c'est d'aller leur servir du gâteau une fois tous les 6 mois. Alors, c'est quand même assez risible et j'appuyais leur... c'était ma façon d'appuyer leur geste, quoi.
Bon, on va l'écouter, alors.
OK.
J'avais un toc sur la caboche. Je servais du gâteau dans le chic resto pop. Quand soudain je flanque, serait-ce possible? D'un attentat terrorisme, voici la cible. Et depuis lors, chaque nuit j'ai peur. Même les dents à 10 ne me sortent plus de ma torpeur. Dans mes cauchemars, chaque nuit revient. Leur gros nez rouge me pitcher leur tarte à la crème. Dans mes rêves sans m'accorder de trêve, ils m'infligent des tartures, m'imposent petite tarture. Toutes les nuits, je vois leur nez de pitre que je pâtisse, ils ont ri. C'est une vraie pâtisserie.
Voilà, c'est la fin de la première partie de l'entretien avec mon oncle Serge. Mon oncle Serge, le professeur de québécois que vous avez à disposition sur Divergence FM, vous avez aujourd'hui appris quelques expressions, notamment la danse à 10. Voilà. Bon, ça c'est pour le fun. Vous pouvez aussi lui poser des questions. Si vous avez envie d'avoir quelques renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à aller sur son site. Alors, http://w3.mononc.qc.ca, mononc.qc.ca. À mon avis, il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. En tout cas, si vous n'avez pas compris ces questions. Ces chansons. Je résiste pas à vous faire passer pour conclure une chanson qui s'appelle Monica. C'est du 100% Mon Oncle Serge. C'est trash. À la semaine prochaine pour la suite. Ciao, bye bye. Ah oui, aussi, une petite nouvelle pour conclure. Dans exactement 2 semaines, nous serons en entretien téléphonique avec le chanteur d'un groupe québécois qui est trash aussi et qui s'appelle Les Cowboys Fringants. Voilà, enfin, plein de trucs pour la fin la fin du printemps et puis le début de l'été. On a plein de choses. Je vous laisse, je vous dis la semaine prochaine. Ciao, bye bye.
Ein, flying, schling! Comme elle avait envie de raconter une farce plate, Monica s'approcha du chef du Parti démocrate. Elle a poussé au sujet de sa femme une joke cochonne. Et Hillary, Hillary Clinton, le rire n'excitant pas seulement Roson. Bill proposa sur le champ une partie de suçon. La stagiaire n'osant dire non, c'est mes à quatre pattes, mais ça lui levait le cœur d'honorer son gros bat. Au beau milieu de l'action, elle a renvoyé son spaghette. Bill était beurré partout, des chaussures à la cravate. Mais ne pensez pas que le président était fâché, ce n'est qu'une stagiaire, laissons-lui le temps d'apprendre le métier. Bill torcha les dégâts avec un rapport de la chambre, sans se rendre compte qu'une boulette était entrée dans son membre. Et comme il avait toujours envie de faire la partouze, ne trouvant rien de mieux, il alla fourrer son épouse. Et le soir même, la petite boulette de spaghetti se ramassa dans le minou de la pauvre Hillary. Le lendemain, à Maison-Blanche, tous étaient surpris qu'Hillary dégage une si forte odeur de spaghetti. Les mouettes s'agglutinaient devant la fenêtre de son office, et tous les chiens galeux allaient lui sniffer le pubis. Hillary s'inquiétait de l'origine de cette odeur, et elle s'en alla en faire part au docteur. Le docteur, trouvant la boulette, lui dit: madame, ça, c'est à non point douter du renvoi de Monica. Madame partit en maudit et le docteur vendit la boulette à un restaurateur chinois qui savait 1000 recettes à base de déchets d'hôpitaux, même qu'il aurait un soir cuisiné un ragoût de pâte de Lucien Bouchard. Monica, ce soir-là, s'était fait livrer du chinois. Elle fut bien étonnée de trouver dans son plat une boulette qui ne lui était pas étrangère. Elle se rappelait même l'avoir envoyée hier. Catholique, elle comprit que Dieu lui envoyait le message de ne plus reculer devant le suçage. Depuis ce jour-là, Monica a pris de l'expérience, et pas juste dans les bureaux de la présidence. Devant les hommes influents, ses lèvres s'écartent. Claude Brochu me disait même l'avoir passé au bat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien avant l'automne, les expos déménageront à Washington. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, bien avant l'automne, les expos déménageront.